présentation sur Gaussian splatting. Ça aurait été dommage de. Oui, c'est ça. Régos VR, donc de Vassil Lepsera, du Centre de robotique des mines PSL, Paris PSL.
Bonjour, maintenant je vais vous présenter Régos VR. Donc, je me présente, je m'appelle Vassil Lepsera, je suis doctorant en première année au Centre de robotique de l'École des mines de Paris. Et mon sujet, comme vous pouvez voir, est intitulé « La luminescence d'objets par champ de radiance ». Je suis encadré par Alexis Palgic et Jean-Muel Deschaux. Et mes travaux sont à l'intersection de deux équipes au centre, notamment l'équipe nuage de points et modélisation 3D, bien 3D, et réalité virtuelle et augmentée. Donc, la problématique qu'on cherche à résoudre est et la numération d'objets patrimoniaux. Comme vous pouvez voir, la plupart de ces objets-là ont des propriétés physiques et des interactions complexes avec la lumière. Par exemple, ce vase romain, on peut voir qu'il est transparent et qu'il a une interaction spéciale avec la lumière. Et les méthodes classiques de numérisation, comme la photogrammétrie, peinent parfois à produire une bonne qualité de reconstruction, à moins d'utiliser des processus d'acquisition qui sont parfois très coûteux et complexes à mettre en place. Donc c'est ce problème qu'on va essayer de résoudre. Et aussi, on va vouloir afficher, faire un rendu sur différents types d'afficheurs. Notamment, on va s'intéresser pour ces travaux-là à la réalité virtuelle, et du coup les casques de réalité virtuelle. Pour présenter pourquoi la réalité virtuelle, pour présenter une expérience immersive, par exemple pour le public ou pour des chercheurs qui sont intéressés. Donc, avant de vous présenter notre méthode, je vais faire une petite mise en contexte sur la synthèse de nouvelles vues. La synthèse de nouvelles vues, comme la plupart de vous le savent, c'est la tâche en informatique graphique de générer des images à partir de points de vue quelconques quand les seules informations qu'on a sont des images prises de différents points de vue. Depuis très longtemps, on a eu la photogrammétrie, mais il n'y a pas eu de nette évolution dans le domaine, sauf en 2020, où il y a eu la publication de NERF, qui est un acronyme pour Neural Radiance Field, qui est une méthode qui représente la scène en 3D par un réseau de neurones, implicitement. Donc c'est un réseau de neurones qui va prendre en entrée une position 3D dans l'espace et un angle qui représente l'orientation de la caméra, position de l'orientation de la caméra, et va nous donner la couleur de ce point et sa densité dans l'espace. Donc, cette méthode a révolutionné le domaine parce qu'elle arrive à produire des résultats qui sont très très qualitatifs et photoréalistes. Mais un majeur problème, c'est qu'elle est très lente et on n'arrive pas à faire du rendu en temps réel qui va nous intéresser. Pour répondre à ce problème, que 3 ans après, on a eu Gaussian splatting, qui est une méthode qui remplace le réseau de neurones de NERF et représente la scène par des paramètres qui sont plus locaux, des primitifs qu'on appelle qui sont des gaussiennes, on appelle aussi splat. Et on va venir faire une projection, pour avoir l'image à la fin, on va faire une projection de ces gaussiennes sur un plan 2D. Donc, cette méthode arrive à avoir une très bonne qualité de reconstruction ou de rendu, un peu en dessous de NERF, mais l'avantage, c'est qu'on arrive à faire du rendu en temps réel avec ces méthodes. Et puis, cette année, il y a eu REGOS, qui est une méthode qui a été développée au Centre robotique des mines de Paris, par Hugo Blanc, Jean-Ménel Deschaux et Alexis Palgic, et qui prend le meilleur des deux méthodes. Du coup, la représentation de la scène en gaussienne de 3D Gaussian Spatting et le rendu volumétrique de NERF. Et elle arrive à avoir de très bonnes qualités de rendu, meilleures que la plupart des méthodes de l'état de l'art actuellement, et sur beaucoup de benchmarks. Mais le problème de cette méthode, c'est qu'on est en dessous de Gaussian splatting en termes de temps de rendu, de performance. Et pour nous, ce qui va nous intéresser, notamment ma thèse à moi, c'est la visualisation en réalité virtuelle. Donc, ces problèmes sont plus les problèmes de temps de rendu de Regos sont plus accentués, pardon, en VR, parce qu'on a de nouvelles contraintes. Notamment en VR, on va devoir cibler 77 images par seconde pour justement ne pas avoir un effet de nausée pour l'utilisateur. Et en plus, on doit devoir faire le rendu de deux images au lieu d'une seule, normalement, pour faire la stéréoscopie. Et en plus de ça, chaque image qui correspond à chaque œil a une très haute résolution. Donc les casques VR récents ont une résolution de environ au moins 2000 fois 2000 pixels par image. Et donc pour pouvoir porter Regos en réalité virtuelle, on a dû faire des optimisations pour améliorer le temps de rendu. Et ces optimisations, principalement, c'est la réimplémentation de la méthode qui était en Python en C++ SQLA, mais ça, c'est plus pour une raison technique. Je pourrais expliquer plus tard. Mais on a aussi introduit un rendu FOVL qui est spécifique à VR. Et le rendu FOVL s'inspire un peu du système visuel de l'œil humain, où notre œil va se concentrer sur une zone qui s'appelle la fovea, et où on va plus de détails. Par contre, la zone qui est en dehors de cette fovea, notre œil va être moins sensible aux détails. Du coup, on va faire du rendu plus qualitatif dans cette zone-là, dans une zone, avec on utilise aussi de l'eye tracking pour voir où l'œil de l'utilisateur est en train de voir. Et en dehors de cette zone-là, on va venir avoir une résolution moins importante et faire du rendu moins qualitatif, mais plus rapide. Et aussi, on a introduit l'élagage de gaussienne. Du coup, pour chaque gaussienne, on va lui attribuer une importance qu'on va calculer et qui représente sa contribution sa contribution à l'image finale. Et on va venir supprimer des gaussiennes qui sont en dessous d'un certain seuil, qui va venir alléger la scène et améliorer le temps de rendu. Donc, je vais vous montrer une petite démonstration. Je ne sais pas si on va voir. Okay. Ici, on peut voir un béryl du Brésil qui vient du musée de Miragem des mines Paris. On peut voir qu'il a des propriétés physiques qui sont très, très complexes, notamment sa transparence et sa réflectance à la lumière. Et on peut voir ici que c'est assez fluide. On peut voir. Je n'avais pas la nausée, je vous promets. Et on peut voir très bien les détails. Donc, c'est beaucoup plus impressionnant en VR parce que là, c'est une projection. Mais on peut voir très bien les détails de l'objet. Là, c'est ses propriétés physiques, sa transparence. C'est assez impressionnant. Ici, je vais vous montrer juste une petite comparaison de l'image Grand Truth, du coup Vérité Terrain, et notre image rendue après le rendu FOVL sur un dataset qui s'appelle MUNERF. On peut voir que les images sont assez similaires, sauf j'ai mis des carrés qui représentent les plus grandes différences entre les deux images. Et on peut remarquer que les plus grandes différences sont en dehors de la zone de FOVL. Ce qui est logique parce qu'on fait du rendu FOVL, on fait du rendu plus qualitatif au milieu de l'image. Et ici, une comparaison des images Grand Truth et de rendu où on a appliqué l'élagage de gaussienne. Donc, perspectivement, pour nous, c'est la scène est très similaire, sauf, je ne sais pas si vous arrivez à voir, sur les carrés en rouge, enfin les rectangles en rouge, il y a un peu de perte en qualité. sur les roues et sur l'écriture. Donc c'est pas encore parfait. Il faut trouver. Je vais vous montrer dans l'imitation. Il y a un compromis entre la qualité de rendu et les performances selon la scène. Le problème aussi, c'est que notre méthode dépend aussi de la résolution de l'image, vu qu'on notre algorithme est basé sur un algorithme dans lancer de rayons. On lance des rayons à chaque pixel. Du coup, ça a une incidence directe sur le temps rendu. Et pour l'instant aussi, certaines scènes qui sont parfois très grandes, avec des millions de gaussiennes, ne tournent pas en temps réel actuellement en VR. Donc, pour les travaux futurs, je vais parler plus de ce que je vais faire durant ma thèse. Donc, mes axes de recherche se résument à comment optimiser la question pour ces méthodes-là, ces méthodes donc Gaussian splatting, notamment Gaussian splatting et Regos. Il y a ici des experts en acquisition et numérisation d'objets en 3D. Il y a un peu des règles ou des meilleures pratiques à suivre pour l'acquisition, mais il y a peu de recherche scientifique derrière. Pourquoi par exemple il faut prendre certain nombre de vues, de quelle position de caméra prendre, quels paramètres intrinsiques caméra choisir, sous quel setup de lumière, background, etc. Donc le but c'est vraiment d'étudier, essayer d'optimiser ces paramètres-là. Et aussi un autre axe de recherche pour ma thèse, c'est comment éclairer ces scènes-là. Donc actuellement, ces scènes ont un éclairage figé, donc on ne peut pas changer la lumière, et on voudrait un peu avoir un résultat comme celui-là. Donc c'est une méthode qui s'appuie sur Gaussian splatting, mais l'inconvénient de ce papier-là, c'est qu'ils utilisent un setup qui est très coûteux, où il faut avoir un light stage qui coûte très cher et qui est difficile à mettre en place. Donc le but du rééclairage, c'est d'abord d'avoir l'interaction des lumières avec les scènes, et aussi on voudrait retrouver la position des lumières qui étaient présentes au moment sur les images et de les reproduire en 3D. Voilà, merci pour l'attention.
Merci, c'est parfait, on a le temps pour les questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi j'en avais une petite sur les lagages des gaussiennes. Tu parlais d'un critère d'un seuillage. C'est quel critère? C'est la taille des gaussiennes.
Les critères, c'est on va venir calculer. Donc, on lance des rayons à chaque pixel. Et pour un rayon donné, on va voir. En fait, pour une vue donnée, on va prendre N vues de la vérité terrain, par exemple on va avoir 5, et pour ces 5 vues-là, on va faire le rendu et on va calculer l'importance de la gaussienne qui se résume à prendre. Donc chaque gaussienne a des paramètres, du coup, une densité, sa couleur et d'autres paramètres, et on va voir à quel point elle contribue à chaque rayon, et on va juste faire une somme de sa contribution sur chaque rayon qui l'intersecte et sur chaque image. Et après, pour l'instant, on définit le seuil empiriquement, mais ce serait bien d'améliorer la méthode et définir peut-être le seuil automatiquement.
Voilà. D'accord. Il y a une publi sur ces aspects-là ou...
On y travaille actuellement. Donc il y aura notamment une publication dans pas longtemps.
D'accord. Merci pour la présentation. Une remarque, c'est que la photogrammétrie, certes, n'est pas utile, mais enfin, d'une certaine manière pour le rendu ou la représentation, mais il y a quand même le structure from motion au départ pour repositionner la pose des caméras et voir les paramètres intrinsèques. Donc au moins, le travail de photographe n'est pas totalement mort. Autre aspect, mais c'est plutôt au sein de l'IRIT, c'est un jeune docteur maintenant qui a travaillé justement sur ces technologies-là et notamment sur à partir de Noyce. Et l'idée, c'était plutôt d'obtenir un maillage. Pour nous, ce qui nous intéresse pour l'archéologie ou pour le patrimoine, c'est avoir le maillage et pouvoir faire les rendus a posteriori. Et là, le setup qu'on a pour l'acquisition, c'est un peu comme la sérophotométrie, je vais le vendre à toutes les sauces, c'est qu'on fait l'acquisition avec une douzaine d'éclairages et qui sont connus et qui sont dans le repère caméra. Et ce qui nous permet après justement de pouvoir connaître la pose de l'appareil photo, mais aussi les éclairages et pouvoir aussi les resimuler. Si ça peut, si jamais ça peut nourrir tes travaux.
D'accord, ouais, c'est intéressant. Mais est-ce que ce genre de setup, et vu que vous le faites, j'imagine souvent, est-ce que c'est assez. Peut-être il y a des fois vous avez des contraintes à le mettre en place ou un peu complexe, j'ai pas besoin.
Bah, les contraintes, c'est le temps et l'argent essentiellement, mais après c'est pouvoir tourner autour des objets. Là, c'est les cas que tu présentes, ce sont essentiellement des objets de musée, donc on peut se mettre dans des conditions favorables pour l'acquisition. Et sur le rendu, là, ce qui peut être intéressant, c'est aussi plutôt côté archéologie, c'est de pouvoir essayer de caractériser ou la densité d'informations dans le matériau. Sans passer par, je sais pas, de la spectrométrie ou autre outil que je connais assez moins.
Effectivement, c'est un axe qui est extrêmement important sur ces questions de caractérisation de matériaux, parce qu'à l'heure actuelle, on a des acquisitions qui sont très élaborées, on produit des modèles 3D, mais au final, le réglage du rendu de texture, il est au doigt mouillé, calé sur des logiciels. Il n'y a pas de référentiels qui sont appliqués. Donc là, il y a vraiment un élément qui est essentiel si on veut se rapprocher effectivement de la réalité des objets dans la mise en lumière par rapport à la réflectance des différents travaux. Donc ça, effectivement, c'est un des axes aussi sur lesquels on travaille avec l'équipe d'INRIA qui s'intéresse à ces questions, mais il y a plein d'autres équipes. Et ça, c'est un vrai élément bloquant et de développement dans la production de modèles 3D que celle d'avoir une meilleure caractérisation des matériaux pour pouvoir avoir une mise en lumière qui soit plus fidèle et plus souple.